Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité. Denis Zungrana.
Affaire mine de Perkoa, le procès s'ouvre le 24 août prochain. Insécurité à Ouagadougou, un militaire poignardé mortellement dans le quartier Bonham. En sport, le Burkinabé Hassan Bandé pourrait évoluer en France cette saison. Benabé Cabré nous en parle dans cette édition. L'invité de ce jour est le docteur Issa Akombiagda, directeur général de l'économie et de la planification. Avec lui, on parle de la répercussion de la guerre Ukraine-Russie sur l'économie burkinabé. Bonjour à vous et bienvenue à cette édition. La plainte des parents des victimes de l'inondation de la mine de zinc de Perkoa a été enrôlée au tribunal de grande instance de Kédougou et passera en jugement le 24 août prochain, selon des informations recueillies par Omega Media. À la suite de la plainte déposée le 28 avril dernier par les parents des victimes, les poursuites ont été effectivement engagées le 11 août et déjà deux personnes ont été placées sous mandat de dépôt, a-t-on appris de sources proches du dossier. En rappel, l'affaire remonte au 16 avril dernier. 8 travailleurs de la mine souterraine de Perkoa, dont 6 Burkinabés, sont restés bloqués dans les galeries après une forte pluie. Les opérations de sauvetage qui ont duré plusieurs semaines n'ont pas permis de secourir les infortunés dont les corps sans vie ont été retrouvés à la fin de l'opération. Les parents des 6 Burkinabés morts dans cet incident ont décidé de porter plainte contre X pour tentative d'homicide involontaire, mise en danger de la vie d'autrui et non-assistance à personne en danger. Et nous parlons d'insécurité à présent. Le corps sans vie d'un militaire a été découvert au quartier Bonham de la ville de Ouagadougou. La victime, un sergent de l'armée burkinabé en service au camp Sangoulé-Lamizana, a été mortellement agressé au couteau ce 15 août par deux individus selon un témoin cité par des sources sécuritaires. Selon les mêmes sources, le militaire qui était en tenue civile au moment des faits a reçu plusieurs coups de couteau devant la porte d'une fille qui l'a raccompagnée après une virée nocturne en compagnie de cette dernière. En attendant la suite des investigations, le corps de la victime a été transporté à la morgue militaire du camp Sangoulé-Lamizana. Et nous parlons d'autre chose. Dans un esprit de solidarité, Bassamyam Solidarity est un groupe de bonne volonté composé de jeunes entrepreneurs, cadres du secteur public, du privé, a répondu à l'appel lancé par le chef de l'État pour venir en aide aux personnes déplacées internes. Dimanche dernier, ils étaient dans le village de Nyonyogo, localité située dans la commune de Dapelgo, qui accueille près de 472 déplacés, où ils sont allés traduire leur compassion et solidarité à ces personnes déplacées en apportant des vivres et des habits. Judith Traoré nous en dit plus.
Premier du champ, ce geste de Bassamyam Solidarity est le fruit d'une collecte. Il vise d'une part à participer à l'effort humanitaire collectif souhaité par le président du FASO et d'autre part susciter une véritable chaîne de solidarité à l'endroit des personnes déplacées internes estimées à ce jour à plus de 2 millions de personnes. Ezzedine Bouli, porte-parole des donateurs.
Nous sommes là, nous, groupe de Bassiam, un groupe d'amis, pour vraiment venir exprimer notre solidarité auprès de nos frères et sœurs déplacés. Et donc, c'est pour faire donc écho à cet appel du chef de l'État que nous sommes là. On estime qu'il faut donner l'exemple. Ce n'est pas que nous avons beaucoup de moyens, mais quand on voit ces hommes et ces femmes qui ont quitté leur foyer dans des conditions difficiles, il était donc nécessaire pour nous de répondre à leur cri de détresse pour apporter un temps soit peu un peu de joie à ces foyers-là.
En recevant ce don composé de sacs de riz, de maïs, de bidons d'huile et des effets d'habillement, Alidou Yameoko, responsable du service social à la mairie de Dapelgo, a traduit toute la gratitude et la reconnaissance de la commune aux donateurs du jour. Il a invité d'autres bonnes volontés à suivre ce bel exemple de solidarité et d'humanisme, car la commune compte 8 sites de personnes déplacées internes et à elle seule, elle n'est pas en mesure de satisfaire les besoins, surtout alimentaires, des personnes qu'elle accueille.
C'est une satisfaction pour nous. L'État seul ne peut pas. Je crois qu'il a pu bien soulager un tant soit peu la souffrance de ces déplacés.
À travers leur porte-parole, Mahamadi Sawadoko, les bénéficiaires, très heureux, ont remercié et prodigué des bénédictions à ces bonnes volontés qui ont pensé à eux.
Vraiment, nous sommes contents avec votre soutien. On prie Dieu pour que votre travail continue comme ça, que Dieu vous accompagne à vos activités.
Convaincu que nul ne doit rester insensible face à la souffrance de son prochain, Inoussa Kabore, coordinateur de Basmiam Solidarity, a invité tout un chacun à agir à sa manière, à son échelle, dans l'optique d'apporter un sourire aux personnes déplacées internes.
Où en est-on avec le projet Burkina Sat 1 et à quand le lancement du premier satellite du Burkina Faso? Pour répondre à ces questions, Marina Traoré a rencontré pour vous quelques membres de l'équipe chargée de ce projet. C'était au cours d'une caravane de presse organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.
Trois grandes étapes constituent la réalisation du projet Burkina Sat 1. Il s'agit de la construction de la station au sol, la construction du CubeSat et enfin le lancement du satellite pour sa mise en orbite. À ce jour, le projet avance bien. La première étape est franchie, la construction du CubeSat est presque terminée et les premiers résultats des tests sont concluants. Dr Alphonse Sanuidi, membre de l'équipe en charge du projet.
À ce jour, la station au sol marche très bien. Nous sommes en plein dans le montage du CubeSat. La phase de montage est achevée presque. Nous sommes actuellement au niveau des différents tests. On peut dire que nous sommes à 80% des tests pour le fonctionnement du CubeSat.
Même si les travaux avancent bien, il n'y a pas encore de date définie pour le lancement. Selon Dr Sanuidi, des tests supplémentaires doivent être faits.
Dans un futur très proche, on peut être sûr de pouvoir voir Burkina Sat 1 flotter dans les airs. Il s'agit tout simplement de quelques composantes qui sont encore à acquérir et faire des tests qui siègent.
Le projet Burkina Sat 1 est un projet qui se mène au sein du laboratoire de recherche en énergétique et météorologie de l'espace au niveau de l'Université Norbert Zongo de Kourougou, troisième ville du pays. C'est un projet piloté par l'astrophysicien professeur Frédéric Ouattara, ancien président de cette université et aujourd'hui ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Ce projet va aider le pays dans le domaine de l'agriculture à travers des informations sur la pluviométrie, la qualité des sols, l'avancée du désert, les changements climatiques. Une fois lancé, le satellite permettra une meilleure prospection minière et une identification des ressources en eau souterraine. Burkina Sat 1 est aussi un projet à objectif scientifique. Il permettra notamment aux enseignants-chercheurs de travailler à la formation. Ce projet est essentiellement financé par l'État burkinabé.
Le bureau régional de l'association Destin en Main a été officiellement installé samedi dernier à Banfora, dans la région des Cascades. C'est une association qui a vu le jour en juillet dernier pour objectif de prôner la paix et le vivre ensemble. Plus de détails avec notre correspondant à Banfora, Bessiri Ouattara.
Après Ouagadougou, l'association Destin en Main, ADM, a déposé ses valises dans la région des Cascades. Le bureau régional fort de 11 membres a été officiellement installé à Banfora par le président national, Eladji Amadou Baba Dayo. L'ex-président du conseil régional des Cascades, Eladji Ngolo Drissa Ouattara, est le nouveau coordinateur régional, secondé par Mariam Traoré, suivi de Foussénisson à la mobilisation, à l'organisation, à la communication, à l'information, Brahima Traoré, à la trésorerie générale, Ibrahim Baro, aux communautés Lale Yakuba Sagnon. La remise des drapeaux du Burkina Faso et celui de l'ADM au coordinateur régional des Cascades, Eladji Ngolo Drissa Ouattara, s'est engagé avec son bureau devant une foule de grands jours pour être le porte-voix de l'association afin de défendre les intérêts qui sont la promotion de la cohésion sociale et le développement socio-économique du Burkina Faso, le vivre ensemble et l'entrepreneuriat des jeunes. En rappel, l'ADM est une association qui a été créée en juillet 2022. Elle est composée d'opérateurs économiques, de commerçants, de fonctionnaires et d'organisations de la société civile. L'ADM, depuis sa création, est dirigée par l'opérateur économique Eladji Amadou Baba Dayo. Banfora, Bessiri Ouattara, Omega Media.
La revue de presse.
Les quotidiens du jour commentent le départ définitif de Barkhane du Mali, la fin des 49 soldats ivoiriens inculpés et écroués pour atteinte à la sûreté de l'État par les autorités maliennes et les résultats de la présidentielle kényane. Sur ce dernier point, ils mettent en garde contre les violences nées des contestations qui pourraient gangréner tout le pays. La revue de presse de ce jour porte la griffe de Brigitte Yoda.
Clap de fin du désengagement de la fille de Serval Barkhane. Depuis hier, 15 août, jour de l'Assomption pour les chrétiens, aucun soldat ne se trouve encore au Mali, rapporte aujourd'hui au Faso. Un départ qui pourrait ne pas être de nature à rassurer d'autres partenaires internationaux, souligne le pays qui pense que le Mali, en tant qu'État souverain, a maintenant l'occasion de s'assumer pleinement. Les Maliens se doivent de s'assumer d'autant qu'en dehors de Moscou, les relations entre le Mali et d'autres partenaires internationaux intervenant dans la lutte contre le terrorisme enregistrent des couacs et des malentendus persistants, ajoute notre confrère. Les relations sont également tendues entre le Mali et la Côte d'Ivoire, relate le quotidien, car en effet, les 49 militaires ivoiriens détenus depuis plus d'un mois ont été inculpés et écroués le vendredi 12 août pour atteinte à la sûreté de l'État. Là où ça va, ça ne sent pas bon, s'exclame l'Express du Faso. Quoi qu'il en soit, les autorités maliennes gagneraient à ne pas trop tirer sur la corde, au risque de se faire harakiri un jour, prévient le quotidien. Selon le Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire, on estime à plus de 3 millions le nombre de Maliens résidant en Côte d'Ivoire. Ce pays côtier serait donc la première terre d'accueil de cette diaspora dans le monde, écrit le journal. Selon l'Express du Faso, une telle attitude peu sereine ne rassure pas du tout sur les capacités de la junte militaire à conduire le navire malien à bon port. En même temps, elle crée une véritable méfiance entre les États membres de la sous-région. Il est alors temps pour les autorités de Bamako de mettre un peu d'eau dans leur vin, estime le quotidien qui pense qu'un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Au sujet des résultats de la présidentielle kényane, attention danger, alerte l'observateur Palga à sa une. Une bagarre qui éclate et on en vient aux mains. Ce sont des images tristes qu'on a aperçues hier au siège de l'IEBC pendant la proclamation des résultats de la présidentielle, indique aujourd'hui au Faso. Des tensions auxquelles il faut ajouter le refus des 4 commissaires sur les 7 que compte l'IEBC qui disent non aux résultats proclamés. 50,49% à William Ruto, vice-président sortant, contre 48,85% à Raila Odinga. 2 points séparent seulement le vainqueur du perdant. C'est pourquoi, après ces résultats au Kenya, aujourd'hui au Faso, pense que la sérénité ne peut pas régner dans un pays où les 2 précédentes présidentielles ont marqué négativement les esprits.
Omega Sport.
Je vous en parlais en titre, le Burkinabé Hassan Bandé pourrait évoluer en France cette saison. Et toujours parlant de sport dans le championnat anglais, c'est Liverpool qui laisse encore filer des points, cette fois à domicile. Bernabé Cabré nous revient dessus.
Bonjour et bienvenue à ce tour d'horizon de l'actualité sportive. Bourema Hassan Bandé pourrait être définitivement vendu par l'Ajax d'Amsterdam. L'international burkinabé, qui ne s'entraîne plus avec l'équipe A ni avec la réserve du club néerlandais, est cité en France où le club de Ligue de Caen lui fait les yeux doux. Des clubs belges sont aussi sur le coup. Hassan Bandé a laissé une bonne impression dans ce pays, surtout après son passage à Malines où il a marqué 12 buts en 27 apparitions. Prêté la saison dernière à Istra en Croatie, l'international burkinabé a inscrit 7 buts et délivré 2 passes décisives en 31 sorties. Championnat européen à présent, nouvelle contre-performance pour Liverpool. Déjà accroché par Fulham 2 buts partout lors de la première journée, les Reds ont concédé le match nul à domicile hier soir, 1 but partout face à Crystal Palace. Avec 2 points au compteur, Liverpool compte déjà 4 points de retard sur le leader Manchester City. En Espagne, l'Atlético Madrid a entamé parfaitement sa saison. Les Colchoneros ont dominé Retafe 3-0 grâce à un doublé d'Alvaro Morata et un but d'Antoine Griezmann, remplaçant au coup d'envoi et qui n'avait plus marqué depuis janvier dernier. L'autre Atlético, l'Atlético Bilbao, a été tenu en échec chez lui 0-0 par Mallorca. La deuxième journée de Liga le week-end prochain verra le Real Madrid se déplacer chez le Celta Vigo et le FC Barcelone rendre visite à la Real Sociedad. En Italie, la Juventus a remporté son premier match de la saison. Les Bianconeri se sont imposés 3-0 face à Sassuolo. avec un Angel Di Maria buteur à la 26e minute, puis passeur décisif sur le deuxième but. Dans l'autre match de la soirée, Naples a cartonné le Hellas Vérone 5-2.
L'invité du jour. L'invité du jour.
L'invité de la rédaction est le docteur Issa Akobiagda, directeur général de l'économie et de la planification. Avec lui, on parle de la répercussion de la guerre Russie-Ukraine sur l'économie burkinabé. Il est interrogé par Alain Tawedrago.
Bonjour, docteur Akobiagda.
Bonjour.
Alors, docteur, le Burkina Faso subit en ce moment les répercussions de la crise entre l'Ukraine et la Russie. Dites-nous comment il se fait qu'une crise si lointaine puisse affecter le Burkina Faso.
Effectivement, oui, il y a des canaux de transmission donc des crises, que ce soit des crises mondiales, régionales ou nationales, à l'impact donc sur l'ensemble des secteurs. À la date d'aujourd'hui, vous avez un peu plus ou moins la crise russo-ukrainienne. Cette crise-là impacte davantage le secteur secondaire et certainement le secteur primaire par la suite. Parce que le secteur secondaire, parce que vous avez un certain nombre donc de biens essentiels à la production qui sont importés et qui n'arrivent pas effectivement à pouvoir se faire. Et vous avez récemment donc constaté ce qui est arrivé au niveau donc des boulangeries. Vous avez par exemple la crise pétrolière effectivement qui a entraîné une augmentation donc des prix.
Quelles sont les mesures entreprises par l'État pour amortir les risques de cette crise-là sur un pays déjà en crise sécuritaire comme le Burkina Faso?
À la date d'aujourd'hui, l'État fait des efforts énormes en termes donc de maintien des prix à la pompe à ce niveau. Mais si on maintient ce cap-là pendant longtemps, on peut aussi carrément mettre effectivement en difficulté la structure fêtière nationale qui s'occupe des questions des hydrocarbures. Donc il est pertinent, à un moment donné, que les chocs soient un peu plus ou moins répartis entre les acteurs pour éviter donc de déstructurer donc l'économie. Et c'est le rôle de l'État. Et des mesures ont été prises dans ce sens-là à travers donc un plan qui est en cours de mise en œuvre dans plusieurs départements ministériels, chacun en ce qui le concerne. Concernant donc les préoccupations, ou du moins les effets annoncés donc de cette crise.
Et dans ce plan-là, je suppose qu'il y a une grande partie accordée aux filos sociaux. Qu'est-ce qui est fait pour accompagner les populations pour qu'elles ne ressentent pas ce choc-là?
Alors, non, oui, il y a les éléments de très court terme qui consistent effectivement à des subventions, comme je l'ai dit par exemple pour la question du carburant. Il y a des subventions pour ce qui concerne l'huile, il y a des. En fait, on va dire des taxes pour permettre effectivement à ce que les revendeurs ou les importateurs puissent donc vendre à un prix relativement donc acceptable. Mais à côté de cela, il y a un certain nombre de mesures structurantes qui sont prises. L'État, donc, en négociation avec le secteur privé, a permis effectivement à ce que ce secteur privé-là revoie un peu plus ou moins en termes de gains momentanés, en attendant bien sûr donc que des mesures structurantes puissent être prises pour garantir l'accompagnement du secteur privé. Parce que vous savez que pour ce qui est donc des biens et services donc distribués à la majorité donc des populations, ce n'est pas l'État qui le fait, c'est surtout donc le secteur privé à travers les entreprises. Et il est pertinent que dans le schéma actuel, l'État puisse discuter permanemment. Parce qu'il y a aussi des cas pour lesquels l'État peut mettre en place donc des subventions, mais les subventions peuvent être captées par le secteur privé de telle sorte qu'il n'y a pas une répercussion. Ce qui amène l'État alors aussi à développer à côté des mécanismes donc factuels comme la distribution de vivres, les filets sociaux pour permettre donc de faire des cash transferts au profit des populations pour les permettre d'acquérir des biens. Mais quand cela ne tienne, une crise comme celle-là nécessite peut-être donc qu'on revisite la structure de notre économie pour garantir que l'économie puisse par elle-même créer des éléments qui permettent donc de maintenir pendant une certaine période. Parce que là, nous sommes dans une structure où l'économie n'a pas du répondant en termes de production. Mais cela n'est pas le fait seul du Burkina Faso. Donc, il est dans la logique de l'État de travailler significativement à maintenir au moins pour un certain nombre de biens ou même accepter certaines augmentations, mais qui ne remettent pas en cause donc, le pouvoir d'achat donc, des ménages. Et le plan d'action donc, adopté par le gouvernement en conseil de ministres il y a de cela 10 jours, permet essentiellement donc de décliner les grandes actions que les États comptent mettre en œuvre pour le semestre à venir et même pour le premier semestre de 2023 pour pouvoir donc permettre au Burkina Faso de moins subir les conséquences donc de cette crise.
Docteur, le pouvoir d'achat du citoyen burkinabé est affecté en ce moment. Est-ce qu'une augmentation de salaire est envisageable en ce moment-là par l'État burkinabé?
Vous savez, en la matière, économiquement parlant, nous ne sommes pas toujours favorables à une augmentation des salaires. La question d'augmentation des salaires doit être pensée beaucoup plus large. Et peut-être qu'à l'étape actuelle, ce que l'État prévoit sont les mesures les plus adaptées pour répondre aux préoccupations. Parce que, vous savez, l'augmentation des salaires crée ce qu'on appelle la spirale inflationniste lorsque le mécanisme de contrôle du prix n'est pas suffisamment garanti. Vous avez une économie burkinabé qui a plus de 70% informelle. Vous avez un schéma de contrôle du prix que l'État tente de mettre en place avec une brigade qui fait des efforts. Mais vous avez aussi donc la psychologie, bien sûr, donc de ce qu'on va appeler les acteurs qui interviennent donc dans la vente de ces produits-là qu'il faut aussi davantage toucher pour les amener à être beaucoup plus regardants. Sinon, lorsque vous n'avez pas tous ces instruments en place, quand vous augmentez les prix, ce que cela donne, entre guillemets, comme signal, c'est que vous augmentez les salaires du moins, c'est que vous avez augmenté le pouvoir d'achat. Mais comme la quantité de biens disponibles n'a pas augmenté, c'est les agents économiques eux-mêmes qui vont accepter une augmentation des prix, donc pousser les prix à l'augmentation. Et in fine, le bien-être lui-même ne serait pas amélioré. Donc, en pareille circonstance, ce qui est recommandé pour une économie comme la nôtre, ce n'est pas de procéder à l'augmentation des salaires, c'est travailler vers le contrôle des prix, mais aussi surtout donc soutenir surtout les couches les plus vulnérables à travers donc des mécanismes comme les filets sociaux, élargir davantage la base de la protection sociale, garantir effectivement donc la production d'un certain nombre de biens publics essentiels pour permettre donc de diminuer la charge donc du consommateur et lui permettre de réinvestir donc cette part-là dans les biens pour lesquels les prix sont obligés d'augmenter parce que le Burkina est importateur net de ces biens.
Merci à vous, Dr Kobiegda.
C'était l'invité de la rédaction.
Issa Kobiegda, directeur général de l'économie et de la planification, est donc notre invité. Et c'est ici que nous refermons cette édition à la réalisation Edwige Tiendrebeugou, au web Yaya Diomondi, à la présentation Denis Zungrana. Celui qui veut du miel doit avoir le courage d'affronter les abeilles. C'est sur ce proverbe que je vous souhaite une excellente journée.
Radio Omega, l'info en direct.